de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition d'aujourd'hui, jeudi, le 7 mai 2020. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que les journaux, les commentaires, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir. Rencontrons-nous dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Contre COVID-19, le Japon approuve son premier test d'antigène. Les lampes Burj Khalifa sont vendues à la collecte de fonds sur une pandémie. Les Australiens sont priés de rester vigilants même si les restrictions sociales se relâchent. La Nouvelle-Zélande s'est engagée à aider l'Indonésie à gérer le COVID-19. Jokowi a dit « Le pouvoir d'achat des gens indonésiens se diminue. » Le vice-ministre a dit « Tous les hôpitaux publics se préparaient à une gestion plus rapide de COVID. » Le porte-parole Vladimir Poutine a contracté le virus corona. Voici le journal complet. Le gouvernement japonais a décidé d'approuver l'utilisation de kits de tests d'antigène pour suivre plus de personnes infectées par COVID-19. Cette décision a été prise pour augmenter le nombre de tests de diagnostic disponibles afin que le gouvernement puisse suivre plus de personnes infectées par COVID-19. Le secrétaire général du cabinet du Japon, Yoshihide Suga, a déclaré que le test d'antigène fonctionne en reconnaissant les protéines présentes dans les virus. Généralement, ce test examine les échantillons prélevés dans la cavité nasale à l'aide d'un échouvillon. Ce test peut détecter rapidement le virus. Cependant, cette méthode de test produit un faux négatif plus élevé que la méthode de test de réaction en chaîne par polymérase ou PCR. Il tentera de mieux comprendre la situation de cette infection grâce à diverses méthodes de mesure telles que les tests antigènes et les tests d'anticorps. Auparavant, le gouvernement japonais a effectué 188 tests PCR pour 100 000 habitants. Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde à Dubaï, est utilisé dans la collecte de fonds en vendant d'éclairage extérieur pour fournir de la nourriture aux personnes en difficulté économique en raison de l'épidémie de COVID-19 aux Émirats Arabes Unis. Les donateurs peuvent faire des dons en fonction du nombre de lampes achetées. Chacune des lumières extérieures du bâtiment de 828 mètres de hauteur est évalué à 10 dirhams ou environ 40 000 rupiah, suffisant pour une portion de nourriture. Cela a été dit par un donateur, Shirin Haris, cité à partir de commentaires sur le site officiel de la collecte de fonds mardi. Selon le responsable des dons de Mohamed bin Rashid Al Maktoum Global Initiative, à ce jour, la collecte de fonds Burj Khalifa a produit plus d'un 1,2 million de portions de nourriture. La collecte de fonds fait partie d'une campagne visant à collecter 10 millions de portions de nourriture pour les familles à faible revenu pendant le mois de Ramadan. Les Australiens doivent rester vigilants contre la nouvelle épidémie de COVID-19, même si les restrictions à la mobilité sociale se relâchent à travers le pays cette semaine, selon les autorités australiennes mercredi. Car le nombre de personnes décédées à cause de COVID-19 a augmenté à 98 mercredi. L'Australie est l'un des pays les plus succès dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 avec environ 7000 cas et une augmentation de la moyenne quotidienne diminue à seulement 0,14%. Bien que l'activité économique ait repris relativement rapidement, l'Australie a connu la plus forte contraction économique jamais enregistrée, le taux de chômage ayant doublé pour atteindre près de 0% en juin. Cependant, le ministre australien des Finances, Josh Frydenberg, s'attend à une reprise économique rapide après l'assouplissement des règles de quarantaine. La Nouvelle-Zélande s'est engagée à fournir une aide d'un montant de 46 milliards roupiah pour soutenir l'Indonésie dans ses efforts pour se préparer, réagir et se remettre à la condition à cause de l'épidémie de COVID-19. Le soutien était acheminé par le biais du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en Indonésie, qui est un partenaire du programme d'aide néo-zélandais depuis longtemps en Indonésie. Cela a été déclaré dans une déclaration de l'ambassadeur de Nouvelle-Zélande à Jakarta mercredi. À travers de cet appui, l'UNICEF devrait être en mesure d'améliorer ses programmes liés à la communication des risques et à la participation communautaire, de renforcer l'achat et la distribution d'équipements de protection individuelle et d'équipements d'hygiène et de prévention des infections et d'assurer le maintien de services de santé essentiels. L'ambassadeur de Nouvelle-Zélande en Indonésie, Jonathan Austin, a déclaré que la pandémie de COVID-19 avait créé une crise humanitaire et de santé publique sans précédent. En tant que partenaire bilatéral étroit, la Nouvelle-Zélande est prête à aider l'Indonésie à faire face à cette crise. Le président Joko Widodo a mentionné une indication d'une diminution de la demande d'ingrédients alimentaires par le public à cette époque. Ceci est basé sur un rapport de l'Agence centrale des statistiques, ou BPS, qui indique que la catégorie des denrées alimentaires a connu une déflation de 0,13% en avril. Cela a été dit par Jokowi lors de l'ouverture d'une réunion limitée pour discuter de l'anticipation des besoins en aliments de base au Palais Merdeka mercredi. Pour aider à accroître le pouvoir d'achat de la population, le gouvernement a lancé divers programmes d'aide sociale tels que l'aide en espèces pour 9 millions de familles bénéficiaires, le programme d'assistance en espèces directe des fonds au village pour 11 millions de familles bénéficiaires, des colis alimentaires, le programme de la famille d'espoir, ainsi que des travaux à forte intensité de trésorerie. Jokowi espère que le programme d'aide sociale pourra augmenter le pouvoir d'achat des gens. Il a également souligné que la question de la disponibilité des produits de base et de la stabilité des prix est très importante pour continuer à être examinée. Le vice-ministre des entreprises d'État, Budi Gunadisadikin, a chargé tous les hôpitaux des entreprises d'État de préparer correctement toutes les installations, les appareils médicaux et les médicaments afin que la manipulation des employés des entreprises d'État et des personnes touchées par COVID-19 devienne rapide et satisfaisante. Cela a été dit par Budi Gunadisadikin lors d'un séminaire en ligne organisé par Pertamedica IHC à Jakarta mercredi. Il a expliqué qu'il voulait s'assurer que sous la coordination des directeurs des ressources humaines, tous les directeurs d'hôpitaux prépareraient toutes les installations, les médecins, les médicaments, les dispositifs médicaux afin que si quelque chose se passait avec les employés de BUMN et leurs familles, ils seraient rapidement référés aux médecins et à l'hôpital public le plus proche. Le porte-parole du président russe, Vladimir Poutine, Dmitry Peskov, a déclaré qu'il était infecté par le coronavirus et qu'il était soigné à l'hôpital, ont rapporté les agences de presse russes. Cela a été dit à Peskov, cité par écrit par l'agence de presse non gouvernementale Interfax. Dans le rapport de l'agence de presse gouvernementale TASS, Peskov a déclaré qu'il avait rencontré Poutine en personne il y a plus d'un mois. Le bureau du président a déclaré que la santé de Poutine était strictement protégée et qu'il avait reçu les meilleurs soins médicaux. Poutine lui-même a adopté la suggestion de travailler à domicile en organisant un certain nombre de réunions par téléconférence à son domicile en dehors de la capitale. Cependant, il a rencontré Igor Sechin, chef de la compagnie pétrolière Rosneft. Peskov n'est pas le seul haut fonctionnaire russe à avoir été exposé au virus corona. L'ancien premier ministre Michael Mishustin a été diagnostiqué avec COVID-19 fin avril et se remet actuellement. Serge Rito, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, bonsoir. Après le journal, maintenant nous vous présentons le commentaire et pour le titre, comprendre les plans du gouvernement permet aux résidents de 45 ans et moins de travailler. À cause de la pandémie de COVID-19, les pays, y compris l'Indonésie, sont confrontés à des problèmes majeurs. L'un d'eux est le problème du chômage. À la mi-avril 2020, le groupe de travail pour l'accélération de la gestion de COVID-19 a annoncé que 1,6 millions de travailleurs avaient été licenciés en raison d'une pandémie. Le 11 mai 2020, la Chambre de commerce et d'industrie ou CADIN d'Indonésie estime que le nombre de travailleurs actuellement au chômage a augmenté à au moins 6 millions et devrait augmenter au cours des prochains mois. Le taux de chômage à cause de cette pandémie est un grand enjeu au nombre de chômeurs indonésiens. Selon les données d'août 2019, il y a 7 millions d'Indonésiens au chômage qui représentent 5,28% des main-d'œuvre indonésienne. Pour surmonter le problème du chômage à la suite de la pandémie de COVID-19, le gouvernement indonésien offre des incitations fiscales aux entreprises. Les incitations fiscales accordées par le gouvernement n'ont pas eu d'impact important sur l'amélioration de l'espace financier nécessité par les hommes d'affaires pour ne pas faire une vague massive de licenciements. Le gouvernement continue certainement de chercher des moyens et de faire des efforts alternatifs afin de réduire le licenciement comme impact de la pandémie de COVID-19. L'un des efforts alternatifs est le plan du gouvernement de fournir l'assouplissement aux personnes âgées de 45 ans et moins pour reprendre leurs activités au milieu de la mise en œuvre des restrictions sociales à grande échelle. Le président du groupe de travail de l'accélération de la gestion de COVID-19, Doni Monardo, a présenté ce plan lundi. Les considérations qui sous-tendent les plans de groupe de personnes âgées de 45 ans et moins ont eu la possibilité de travailler au milieu de la mise en œuvre des restrictions sociales à grande échelle. Selon Dodi Monardo, notamment physiquement, ils sont considérés comme plus résistants aux maladies que leurs aînés de plus de 45 ans. Ils ont la possibilité de reprendre le travail afin de ne pas ressentir trop profondément l'impact économique. Ce plan gouvernemental a malheureusement déclenché de nombreuses critiques en raison d'une mauvaise compréhension de la déclaration du président du groupe de travail pour l'accélération de la gestion de COVID-19, Doni Monardo. Le public interprète la déclaration transmise par Doni Monardo comme si ce qui avait été transmis pouvait être immédiatement appliqué. Pourtant, pour mettre en œuvre le plan, il doit y avoir la base juridique permettant aux citoyens de moins de 45 ans de reprendre le travail. En outre, la communauté a également mal compris l'étendue des travaux autorisés. Les possibilités d'emploi fournies ne s'appliquent pas à tous les domaines de travail, mais sont limitées à 11 domaines d'activité, comme indiqué dans le règlement du ministre de la Santé concernant les restrictions sociales à grande échelle. Le plan du gouvernement visant à permettre aux résidents âgés de 45 ans et moins de reprendre le travail doit être discuté plus détaillé, parce qu'en fait, ce bon plan vise à permettre aux résidents de 45 ans et moins de faire plus d'activités afin de réduire le potentiel de licenciement. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Chers auditeurs du Tisse du monde entier, voici l'histoire d'aujourd'hui, l'édition 14 mai. On veut commencer le 14 mai 1948, la création de l'État d'Israël. Le 14 mai 1948, ou un jour avant le mandat britannique, Ben Gurion a proclamé l'indépendance de l'État d'Israël. James Weissman a proclamé l'État d'Israël et s'est établi à la présidence. Selon les documents historiques, la perte de l'État d'Israël aura été estimée à 70 ans, marquée par la destruction de la ville de Jérusalem par l'Empire romain. L'ONU a décidé d'officialiser la création de l'État d'Israël sur des terres palestiniennes en divisant deux régions, certaines pour les Arabes et d'autres pour les Juifs. Mais la formation de l'État israélien était opposée par le monde arabe, en particulier par les musulmans. Ils ont refusé de compromettre les Nations Unies et il y avait des conflits et des guerres à ce jour. On va continuer le 14 mai 1955, la pacte de Varsovie a été signée par certains pays du bloc communiste. Le pacte de Varsovie est une alliance militaire des pays du bloc de l'Est d'Europe orientale qui vise à s'organiser pour contre les éventuelles menaces d'alliance de l'OTAN formée en 1949. La formation du pacte de Varsovie a été déclenchée par l'intégration de l'Allemagne de l'Ouest dans l'OTAN par la ratification de l'accord de Paris. Le pacte de Varsovie a été conclu par Nikita Khrushchev en 1955 a été signé à Varsovie le 14 mai 1955. Ce pacte a pris fin le 31 mars 1991 et a été officiellement mis fin à une réunion à Prague le 1er juillet 1991. On va terminer le 14 mai 1962, tentative d'assassinat du premier président indonésien, Sukarno. Ces événements se sont produits lors de la prière de l'Aïd al-Adha dans la mosquée Baitur Rahim dans le palais d'État. Au cours de la prière, l'auteur a sorti une arme à feu et a tiré des balles à plusieurs reprises sur le président Sukarno. Mais les tirs ont été manqués et les balles ont touché plusieurs personnes, y compris le président du Parlement à l'époque, qui est Zainul Arifin. Les auteurs étaient des membres du groupe rebelle Darul Islam de l'armée islamique indonésienne DITII, Mohamed Bahrum. Il a été condamné à mort, mais a obtenu la grâce du président Sukarno. C'est ce Didolitis, c'était l'histoire d'aujourd'hui ce soir, l'édition le 14 mai. À demain.
Kekasihku, sayangku, ku ingin kau tahu, hati ini kan selalu menantikan cinta. Jangan ada kau.
bisa. Pegang erat janjiku, yakinkan di hatimu,
selalu untukku.
Tak akan ku berpaling, hanya kau satu di hatiku. Sampingmu, tak ku biarkan kau jauh. Tuk selamanya ku tetap di hatimu.
Chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Mon Indonésie intitulée Pour empêcher les incendies de forêt et de terre, le gouvernement a mouillé les tourbières avec une pluie artificielle plus tôt. Pour anticiper avant l'été et pour prévenir la sécheresse de la tourbe inflammable, le gouvernement a lancé la mise en œuvre d'opérations de technologie de modification des conditions météorologiques ou TMC ou de pluie artificielle à partir du 11 mai 2020 pour les régions de Riau, Jambi et Sumatra du Sud. Lors du lancement qui a eu lieu virtuellement à Jakarta lundi, M. Ruanda Agung Sugardiman, directeur général du contrôle des changements climatiques, a déclaré que la technologie de modification des conditions météorologiques pour l'ingénierie des pluies artificielles est destinée à mouiller les tourbières saison sèche en remplissant les canaux, les étangs et les étangs de rétention. M. Ruanda a expliqué que l'opération de la technologie de modification des conditions météorologiques sera commencée par la création de deux postes de commandement dans la région de Sumatra, à savoir le poste de commandement de Pakanbaru qui couvre la province de Riau et une partie de Jambi, et le poste de commandement de Palembang pour la province de Sumatra du Sud et une partie de Jambi. L'opération de la technologie de modification des conditions météorologiques sera effectuée pendant 15 jours à chaque poste. Après ces deux postes, les plans futurs conformément aux prévisions de recommandations du Conseil de météorologie, climatologie et géophysique ou BMKG, trois postes de commandement similaires seront créés dans toutes les provinces de l'île de Kalimantan. On espère que la mise en œuvre de la technologie de modification des conditions météorologiques qui commencera immédiatement après le lancement pourra prévenir les incendies de forêt et de terre et réduire le nombre de karhutlah en 2020 à l'échelle nationale, notamment dans la province turbeuse sujette aux incendies de forêt et de terre. En principe, les opérations de la technologie de modification des conditions météorologiques imite les processus naturels qui se produisent dans le nuage. Un certain nombre de particules hygroscopiques transportées par des avions sont ajoutées directement dans les nuages de type cumulus ou bien nuages de pluie pour que le processus de collecte des gouttes des eaux dans les nuages soit commence immédiatement. Comme le grossissement de gouttes plus efficacement, le processus de pluie sera plus rapide et produira plus de précipitations. La ministre de l'Environnement et des Forêts, Mme Siti Nurbaya, a déclaré sa gratitude et son appréciation à toutes les parties impliquées dans la lutte contre les incendies de forêt et de terre. L'équipe du groupe de travail sur le terrain a travaillé à l'avant-garde des incendies de forêt et de terre et socialisé les dangers des incendies de forêt et de terre et la propagation du COVID-19 de porte à porte. La ministre Siti Nurbaya a déclaré que plusieurs emplacements de tourbières qui avaient des incendies récurrents devraient encore recevoir une attention sérieuse. Les parties doivent veiller à ce que la tourbe reste humide. Chers amis, c'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Memang indah semua, tapi berakhir luka. Kau main hati dengan sadarmu. Kau tinggal aku, benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Kau hianati hati ini, kau curangi aku.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, écoutons maintenant magazine culturel intitulé Kopior Roti, un repas typique du Ramadan pour l'Iftar de Banyuwangi. Au cours du mois de Ramadan, une variété culinaire de l'Iftar, c'est le repas pris le soir à la rupture du jeûne, peut être trouvé facilement. Différents menus de l'Iftar sont vendus par les commerçants, y compris à Banyuwangi, plus précisément à Gesibu. Gesibu est un centre commercial de repas typiques du Ramadan pour l'Iftar à Banyuwangi. Et Kopior Roti est le plus recherché par les habitants de cette région. Kopior Roti est fabriqué à partir d'ingrédients naturels tels que du pain, des nouilles au riz, du jacquier et du lait de coco. L'emballage n'est pas en plastique mais utilise des feuilles de bananier. Le processus de fabrication est également simple. Il s'agit de feuilles de bananier comme des enveloppes remplies de pain frais, des nouilles du riz, de jacquier et de lait de coco chauffé et ensuite cuite à la vapeur pendant 15 minutes. Kopior Roti a un goût si délicieux. Le commerçant mélange généralement le Kopior Roti avec le jacquier. Ils sont fabriqués à partir d'ingrédients naturels tels que le jacquier, le lait de coco et enveloppés dans des feuilles de bananier. Par conséquent, cette cuisine est saine. Le goût sucré et la texture douce du gâteau font cet aliment un bon menu de l'Iftar. Le prix est assez bon marché, environ 2000 et 5000 rupiah par paquet. C'est le menu préféré des habitants de Banyuwangi. Il n'est pas difficile de trouver sur de nombreux marchés ou bien lors du festival de Ramadan. De nombreux commerçants vendent le Kopior Roti. Chers amis, c'était magazine culturel intitulé Kopior Roti, un repas typique du Ramadan pour l'Iftar de Banyuwangi. Merci à tous et à bientôt. Kebahagiaan.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Et la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Chers amis, voici l'Indonésie en couleur, informant sur Bali accueille le surf mondial 2019. Le président de l'équipe d'accélération du tourisme maritime du ministère du Tourisme de la République d'Indonésie, Indroyono Susilo, a déclaré que l'Indonésie devrait être reconnaissante de pouvoir bénéficier de nombreuses plages. De plus, certains d'entre eux ont des vagues difficiles. Les vagues se propagent le long des côtes ouest et sud de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. L'Indonésie compte également des centaines de plages de surf, dont 30 sont des lieux de surf de classe mondiale. Indroyono a ajouté que le gouvernement voyait un grand potentiel pour le surf. Le gouvernement considère le potentiel de surf comme une attraction touristique indonésienne pour les touristes étrangers. Pour cette raison, depuis l'année dernière, le gouvernement a collaboré avec WSL ou World Surf League et a apporté son soutien à plusieurs événements de surf organisés en Indonésie. L'un des événements internationaux de coopération entre le gouvernement et le WSL se tient à Bali. Bali organise à nouveau un championnat de niveau mondial en organisant la troisième série du circuit de la World Surf League 2019. L'événement, nommé Corona Bali Protected, se déroulait à la plage Keramas, en région Gianyar, du 13 au 25 mai 2019. Corona Bali Protected est participé par 56 surfeurs, 37 garçons et 19 filles qui figurent sur la liste des meilleurs surfeurs du monde. Ricky Fauziani, l'adjoint député au développement du marketing en Régional 3 du ministère du Tourisme, a expliqué que l'Indonésie avait été choisie comme l'une des 11 cours du championnat WSL. Cet événement est la preuve que l'Indonésie possède des destinations de surf de classe mondiale. Selon le responsable de l'équipe d'accélération du tourisme maritime du ministère du Tourisme de la République d'Indonésie, Indroyono Susilo, 11 sites de surf en Indonésie sont devenus des lieux pour le WSL 2019, ce qui placera l'Indonésie au premier rang de destinations de surf au monde. Les autres hôtes de WSL sont le Brésil, Tahiti, les États-Unis, Hawaï et l'Australie. Chers auditeurs, c'est tout l'Indonésie en couleur.
Ku rasakan tentang cinta yang sedih.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir, chers auditeurs de la Vendinésie, le service mondial de RRI. On se retrouve encore dans le magazine musical, une rubrique qui vous introduit des chansons indonésiennes. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur une chanson religieuse de Gito Rolis intitulée « Hanya padamu aku bergantung ». Restez avec nous à www.voice.id. Un chanteur avec le vrai nom Bangun Sugito est le chanteur du groupe de musique célèbre de Rolis dans les années 1960. En plus de faire partie du groupe de Rolis, Gito a également activement publié des albums en tant que chanteur solo. Il a publié 15 albums, y compris un album religieux intitulé « Kembali Padanya » sorti en 2007. L'une des chansons dans l'album « Kembali Padanya » intitulé « Hanya Padamu Aku Bergantung ». Cette chanson raconte un serviteur qui s'est rendu à Allah Subhanahu Wa Taala. La chanson composée par Les Hadi a été chantée de nouveau par son ami René Jaïsman en 2017. À travers cette chanson, René Jaïsman souhaite commémorer et rendre hommage à Gito, décédé en 2008. Bon, serviteur, voici donc Gito Rolis avec sa chanson intitulée « Hanya padamu aku bergantung ». Bonne écoute et à demain.
Dari yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Mohon ampunanmu dari segala dosa.
Of Indonesia. yang maha penyayang. Lapangkanlah urusan kami, tiada tempat kami memohon kecuali Engkau yang maha pengasih.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ceux qui sont malades. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.